أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
جماعت احمدیہ میں
Il y a une phrase au sein de la Jamaat Ahmadiyya, une phrase qui est connue par tous les membres de la communauté, qu'ils soient hommes ou femmes, grands ou petits, à savoir que je vais préférer la foi à ce bas monde. On connaît cette formule parce que le Messie premier l'Islam a attiré notre attention à ce propos et il a souligné l'importance de cela. Et les orateurs au sein de la communauté, les califes au sein de la communauté, dans leurs discours, eh bien, ils font référence à cette formule, à cette phrase. Cette phrase est aussi le résumé du serment d'allégeance, à savoir que je vais préférer la foi à ce bas monde. Les différentes organisations auxiliaires au sein de la communauté ont un serment et cette phrase ou cette formule et le résumé de leur serment, à savoir que je vais préférer la foi aux choses de ce monde. Et cette phrase est aussi reprise dans les conditions de la Bayra. C'est une phrase que nous répétons. En tout cas, c'est là un engagement pris par un Ahmadi. Et son allégeance au sein de la communauté est basée sur cette formule. Et sa relation avec le califat et la Nizam et Jamaat est liée avec cette formule. S'il ne respecte pas cette formule, eh bien sa Bayra ne servira à rien. Et il serait tout à fait faux de dire qu'il sera toujours lié ou attaché à la communauté ainsi qu'au califat. Et le fait d'annoncer sa Bayra, son allégeance à la communauté, et le fait d'annoncer qu'il est en quête du plaisir de Dieu ne seront que vaines déclarations de sa part. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a déclaré que si quelqu'un annonce en prêtant allégeance qu'il va préférer la foi à ce monde, mais que dans la pratique il n'est pas en train de mettre en pratique cette formule, et qu'il n'est pas fidèle envers cet engagement qu'il a pris, eh bien Dieu ne se souciera guère de lui. Ainsi, il incombe à chacun d'entre nous que d'avoir toujours en tête cette formule, cette phrase. Cela est très important. Cette phrase stipule que aucune chose en ce monde, aucune chose mondaine ne doit entraver notre voie vers la foi. Que signifie la foi? Que signifie al-Din? Cela signifie passer sa vie en respectant les préceptes de Dieu, de faire en sorte que chacune de ses paroles et de ses actions soit un moyen pour plaire à Dieu. Par la grâce de Dieu, nombre d'entre nous essaye d'enlever ces obstacles qui entravent notre voie sur la foi. Il y a beaucoup d'entre nous qui font des efforts en ce sens, qui essayent d'enlever ces obstacles qui entravent leur voie vers la foi. Mais il est tout aussi vrai que de dire que les efforts de tout un chacun ne sont pas similaires. Ces efforts ne peuvent être similaires parce que les aptitudes intellectuelles de tout un chacun sont différentes et les autres aptitudes, les autres facultés sont différentes d'un individu à un autre. Certes, étant donné que Dieu connaît nos intentions, c'est pour cette raison qu'il va traiter chaque personne selon ses facultés, selon ses aptitudes. Le point fondamental afin que l'on puisse respecter cet engagement, c'est d'avoir de bonnes intentions. C'est-à-dire que l'on ne doit pas chercher des prétextes et des excuses afin de ne pas respecter cet engagement. En ce qui concerne les choses de ce monde, nous constatons que chaque individu agit dans un cercle qui lui est propre. D'aucuns agissent dans un cercle qui est restreint parce que leurs aptitudes intellectuelles et leurs capacités sont limitées. Dans d'autres cas, cette personne a d'autres priorités qui lui empêchent d'atteindre son but et qui restreint ses aptitudes. Et quant à ceux qui font beaucoup d'efforts et dont les efforts vont dans la bonne direction, eh bien, ces personnes qui se consacrent entièrement à leur objectif, eh bien, ces personnes ne se contentent que de faire des efforts pour atteindre cet objectif. Et en fin de compte, ces personnes atteignent leur objectif. Hadrat Muslim Maud, radiallahu anhu, le réformateur promis, a commenté sur ce sujet. Je vais profiter ici de ses paroles. Je vais le citer ici. Je vais citer certains des faits qu'il a évoqués. Il a cité un exemple général qui concerne les efforts limités ou les efforts accomplis pour atteindre un but donné. Il a déclaré que d'aucuns, même s'ils doivent accomplir une tâche importante, eh bien, lorsqu'ils sont en train de marcher pour aller atteindre ce but ou pour accomplir cette tâche, eh bien, ils sont très conscients à propos des vêtements qu'ils portent. Ils ont peur, attention, qu'il y ait des plis ou des défauts dans leur pantalon, attention, qu'il y ait de faux plis dans leur manteau ou que leurs vêtements soient chiffonnés. Même s'ils doivent partir quelque part et qu'ils sont pressés, ils vont à tout instant vérifier leurs vêtements. Et c'est pour cette raison qu'ils n'arrivent pas à fournir l'effort nécessaire pour arriver à l'heure. Cela ne concernait pas que le passé à l'époque du deuxième calife. Aujourd'hui aussi, nous trouvons pareil exemple, surtout dans la société asiatique. Voilà comment se comportent les hommes et les femmes. Des fois, ils sont trop conscients de l'état de leurs vêtements. Mais il en est aussi d'autres personnes qui, certes, sont très intéressées par la mode, mais lorsqu'ils ont à atteindre un objectif particulier, eh bien, ils sont prêts à sacrifier leur tenue, à sacrifier la mode. Si pour atteindre un objectif, ils doivent sacrifier leur tenue, et s'ils doivent courir même, eh bien, ils sont prêts à courir pour atteindre cet objectif. Si pour atteindre cet objectif, ils doivent s'asseoir quelque part, eh bien, ils sont prêts à s'asseoir là où c'est nécessaire à s'asseoir. Et ils sont prêts à marcher dans la boue, dans la poussière pour cela. Pourquoi cela? Tout simplement parce que ils ont un autre objectif. Ils ne se soucient que de leur but, que de leur objectif. C'est pour cette raison qu'ils ne se soucient d'autre chose. Même s'ils portent un beau manteau, même s'ils portent un vêtement blanc, eh bien tout cela n'entrave pas leur voie vers leur objectif. Hadrat Muslim Aoud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya et le réformateur promis, nous a cité un autre exemple tiré de l'histoire de l'Angleterre d'une personne qui a sacrifié une chose matérielle pour atteindre un but. C'est un récit qui date de l'époque de la première reine Élisabeth, Élisabeth la première, qui a vécu en l'an 1558. Elle fut intronisée en l'an 1558 et elle a été reine d'Angleterre pendant 45 ans. C'était une reine très connue. Ce fut au cours de son règne que l'Angleterre a jeté les bases de sa grandeur et de sa puissance. On disait à propos de cette reine qu'elle aimait avoir parmi ses courtisans des personnes qui portaient de beaux vêtements, des personnes qui étaient à la mode et qui portaient de beaux vêtements. Ceux qui ne portaient pas des vêtements haut de gamme, des vêtements onéreux, ne pouvaient pas se présenter dans sa cour. C'est pour cette raison qu'on disait qu'il y avait toujours autour d'elle des jeunes hommes qui portaient de beaux vêtements, des jeunes hommes qui étaient toujours à la mode. Un jour, alors qu'elle était en train de marcher avec certains de ses courtisans, elle est tombée face à une mare de boue. Aujourd'hui, il y a partout des routes battues, des routes goudronnées. À l'époque, il n'y avait que des ruelles en terre battue. Mais en tout cas, elle était face à une mare de boue. Et elle avait en sa compagnie le commandant en chef de la marine de l'Angleterre, qui était une personne très fidèle envers la reine, qui était très proche de la reine. C'était une personne qui portait de beaux vêtements, c'était un jeune homme. Ce jour-là, quand la reine était face à cette mare de boue, eh bien, ce commandant de la marine portait un manteau qui coûtait très cher, un manteau qu'il ne portait qu'en des occasions solennelles. En voyant la boue, elle a enlevé son manteau et elle a posé son manteau sur la boue. La reine, en voyant tout cela, était fort étonnée. Elle s'est demandé pourquoi il avait placé son manteau très cher dans la boue. Elle lui a demandé « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Ce commandant de la marine s'appelait Sir Walter Raleigh. Et la reine lui a dit « Pourquoi avez-vous fait cela ? Pourquoi avez-vous placé votre manteau dans la boue ?» Le commandant de la marine a répondu que « C'est mieux d'abîmer le manteau de Raleigh que de salir le pied ou la chaussure de la reine. » C'est une action qui a plu grandement à la reine. Et par la suite, elle n'a cessé de conférer des titres à ce commandant qui n'a cessé de monter en grade. Certes, à l'époque de James le Premier, on a accusé ce commandant de la marine de traîtrise et il a été condamné à mort. Ainsi, il a été accusé de trahison et condamné à mort en dépit du fait qu'il a beaucoup fait pour son pays, même au cours du règne de ce roi, et il avait lancé de grandes campagnes. En dépit de cela, il a été condamné à mort. En tout cas, cet exemple nous enseigne que ce commandant de la marine, qui s'appelait Raleigh, était prêt à sacrifier son élégance et ses beaux vêtements lorsqu'il était question de la reine. Lorsqu'il était question de la reine, eh bien, il a sacrifié son élégance et sa mode. Ainsi, si une personne de ce monde peut sacrifier sa mode, peut sacrifier son manteau très cher pour plaire à la reine, eh bien, à quel point doit-on faire des sacrifices pour la cause de la foi, pour diffuser le message de l'islam et pour renforcer l'islam et pour établir l'islam et pour avoir le plaisir de celui qui nous a créés, pour avoir le plaisir de Dieu. N'est-il pas nécessaire pour nous de consentir à des sacrifices pour atteindre cet objectif? Cet objectif ne doit pas nous être plus cher que le désir de Raleigh que de plaire à sa reine. Dans son cas, en dépit du fait qu'il a essayé de plaire au roi de ce monde, en dépit des grands services qu'il a rendus, eh bien, il a connu une fin des plus funestes. Mais quant à celui qui essaye de plaire à Dieu, quant à celui qui ne cesse de chercher le plaisir de Dieu, eh bien, il reçoit des faveurs ici-bas et il connaît aussi une bonne fin. Nous devons aussi comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir des objectifs sublimes. Il ne suffit point d'avoir des objectifs sublimes tant que la fidélité, tant que le sens de sacrifice n'est pas en accord à cet objectif. Nous aurons le plaisir de Dieu lorsque le monde n'aura pas suprématie sur notre foi, mais lorsque la foi aura suprématie sur les choses ayant trait à ce monde. Certes, Dieu ne nous a pas empêchés d'acquérir les choses de ce monde. Il n'est pas interdit d'acquérir les choses que Dieu n'a pas rendues illicites pour nous. Il ne nous est pas interdit de porter de beaux vêtements. Il ne nous est pas interdit de consommer des bons mets. Il ne nous est pas interdit d'habiter dans de belles maisons, d'embellir ces maisons. Tout cela nous est licite. Ce qui nous est interdit, c'est de faire de ces objets des obstacles dans la voie pour le progrès de l'islam. Les gens se marient et la charia, la loi islamique, ne vous dit pas de chercher des femmes laides pour vous marier avec elles. Mais le saint prophète Mohammed a certainement déclaré que l'on ne doit pas se contenter de regarder les choses ayant trait à ce monde. Il est important de regarder aussi l'état spirituel de la femme avec laquelle l'on va se marier. La charia déclare que votre femme, votre épouse, ne doit pas être un obstacle dans la voie de l'ibada. Vos épouses ne doivent pas vous pousser à négliger la prière. Si les jeunes hommes et les jeunes filles prennent en considération ce point, si leurs parents aussi en font de même, eh bien, en préférant la foi à ce monde, ils vont résoudre nombre de mésententes conjugales et ils vont atteindre l'objectif que doit atteindre un croyant, à savoir qu'ils vont avoir le plaisir de Dieu. En ce qui concerne les vêtements, il ne nous est pas interdit de porter de beaux vêtements, certes, mais ce qui nous est interdit, c'est de s'empêtrer à tel point dans la mode que l'on néglige les choses qui ont trait à la foi. Il ne faut point être trop conscient concernant ses vêtements, se disant que si je vais partir dans tel ou tel endroit, eh bien je vais salir mes vêtements. Ainsi, l'on ne doit point négliger les choses ayant trait à la foi. Et d'aucuns, en portant de beaux vêtements, au lieu de se soucier de la prière de la Sola, ils se soucient de leurs vêtements. Ils ne se soucient que des plis de leurs vêtements. Il ne doit pas en être ainsi. Ainsi, l'islam déclare que vous ne devez jamais négliger les choses ayant trait à la foi, et c'est là que vous allez pouvoir préférer la foi aux choses de ce monde. Il en est de même concernant des bons repas, des bons mets. La religion ne vous interdit pas d'en consommer. Mais cela ne doit point vous détourner des choses ayant trait à la foi. Cela ne doit point être des obstacles dans votre voie vers la foi. Ce sont là autant de points que nous devrons prendre en considération. À savoir, si quelque chose est un obstacle dans la voie vers la foi, eh bien, nous devons nous en débarrasser. Le Messie premier, l'Islam, a déclaré qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui, en acceptant l'Islam, s'empêtrent dans les commerces de ce monde, s'empêtrent entièrement dans les business de ce monde, et c'est Satan qui leur monte à la tête. Ces personnes se consacrent entièrement à ce monde. Le Messie premier, l'Islam, déclare que je ne vous dis pas que le commerce est interdit. Les compagnons du Saint-Prophète, Mohammed, paix soit sur lui, faisaient du commerce, mais ils préféraient la foi à ce monde. Ils ont accepté l'islam et ils ont acquis cette vraie connaissance qui avait trait à l'islam, cette connaissance qui a empli leur cœur de certitude. C'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais chancelé face aux assauts de Satan. Aucune chose ne les a empêchés d'exprimer la vérité. Mais quant à ceux qui sont asservis à ce monde, quant à ceux qui sont en train d'adorer ce monde, eh bien, ces personnes se trouvent entièrement sous le joug de Satan. Ils ont été asservis par Satan. Il y a d'autres personnes qui ne se soucient que du progrès de la foi. Voilà ceux qui sont qualifiés de Hezbollah, de la partie d'Allah. Et ces personnes remportent la victoire sur Satan et sur ses armées. J'ai cité quelques écrits du Messie premier al-Salam au tout début. Il a déclaré que, en préférant la foi à ce monde, c'est là que l'on va pouvoir atteindre l'objectif de la Baïra. Et pour cela, tout en accomplissant ses devoirs ici en ce monde, tout en accomplissant ses tâches mondaines, il faut aussi acquérir cette connaissance et entrer à la foi, et il faut aussi appliquer cette connaissance dans sa vie pratique. Sans acquérir cette connaissance qui a trait à la foi, l'on ne va pas comprendre c'est quoi la foi. Cette foi que je dois préférer à ce monde. La prière, la sola, est un pilier fondamental de l'islam, mais il y a nombre de musulmans. Je pense que 80% des musulmans n'accomplissent pas la prière, ne prient pas. Et même s'il y a certains qui sont en train de prier, eh bien, ils considèrent la prière comme une tâche répugnante qu'ils doivent accomplir à la va-vite. C'est pour cette raison que Hadrat Muslim Maud a déclaré qu'il y a des personnes importantes qui sont négligentes concernant la prière. Il y a les nababs, des personnes riches qui considèrent la prière comme quelque chose de répugnante, tout comme un musulman ordinaire considère la consommation de la chair de porc comme quelque chose de répugnant. Et la situation est la même aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la plupart des gens riches, la plupart des gens qui sont dans l'aisance sont négligentes concernant la prière. Et même s'ils accomplissent la prière, ces gens-là, eh bien, ils ne passent pas par l'état dans lequel on doit être au cours de la sola. Celui qui accomplit la prière, celui qui accomplit la sola, protège les valeurs humaines. Allah déclare que vos prières, vos solas doivent apporter en vos personnes des changements purs. Aujourd'hui, l'on peut dire que, par exemple, au Pakistan, il y a nombre de personnes qui vont prier dans les mosquées non ahmadis. Ces mosquées non ahmadis sont emplies de fidèles. Mais même si ces mosquées sont emplies de fidèles, ces personnes ont-elles apporté en elles des révolutions? Ces mollahs et ces prédicateurs derrière lesquels ils prient ne leur enseignent que la haine et rien de plus. C'est pour cette raison que les feux de la haine ne cessent de s'enflammer en dépit du fait que le nombre de fidèles est en train d'augmenter dans ces mosquées. Ils sont en train de nous persécuter, cela on le sait déjà, mais ils ne cessent pas de perpétrer des exactions les uns à l'encontre des autres, et ces exactions ne sont pas des moindres. La situation est ainsi tout simplement parce que ces personnes n'accomplissent pas ces ibadats pour préférer la foi à ce monde, mais pour acquérir des choses de ce monde. Apparemment, ces personnes partent à la mosquée pour des objectifs sublimes, mais en leur fort intérieur, ils ont pour intention des objectifs des plus infâmes. Ainsi, pour atteindre des objectifs sublimes, il faut avoir des pensées sublimes. Et l'on ne doit pas consentir à des sacrifices pour des avantages personnels, mais afin d'avoir le plaisir de Dieu. Ainsi, si l'on n'est pas en train de venir à la mosquée pour atteindre des objectifs sublimes, si l'on ne vise pas à s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, tout en s'acquittant de ses devoirs envers les hommes, si l'on n'a pas pour objectif le fait de diffuser le message de l'islam et d'établir l'islam, eh bien la présence à la mosquée ne servira à rien. Et face à la situation déplorable des musulmans, nous les Ahmadis, nous devrons être davantage vigilants à ce propos. Nous qui avons fait ce serment de préférer la foi à ce monde, nous devons comprendre l'objectif de ce serment. Et tout en nous acquittant de nos devoirs envers Dieu, nous devons aussi nous acquitter de nos obligations envers les hommes. Et nous devons aussi faire des efforts pour diffuser le message de l'islam et pour rétablir l'islam. Si nous accomplissons toutes ces tâches, eh bien, nous pourrons, autant que nous le désirons, profiter des faveurs de ce monde. Tout cela nous sera licite. On nous a confié cette responsabilité que de présenter le beau message de l'islam aux autres. Nous allons devoir assumer cette responsabilité. Nous avons pour responsabilité de traduire et de publier le Saint-Coran en différentes langues. Nous allons devoir assumer nos responsabilités à ce propos. Nous allons devoir bâtir partout des mosquées afin qu'il y ait partout de véritables adorateurs de Dieu, afin que nous soyons parmi les véritables adorateurs de Dieu. Et pour accomplir cette tâche, nous allons devoir faire des plans dans tous les pays du monde. Nous allons devoir être de grands exemples quant au respect des valeurs humaines. Si nous sommes en train d'accomplir tout cela tout en acquérant les choses de ce monde, eh bien, ce monde va se transformer en dîn pour nous, en chose qui a trait à la foi. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, ces tâches qui sont apparemment licites seront illicites aux yeux de Dieu. S'il y a un nouveau iPhone qui vient de sortir ou si quelqu'un a de l'argent, il peut s'acheter une nouvelle voiture, il peut s'acheter de beaux vêtements. Mais si pour acheter ces choses, nous sommes en train de remettre à plus tard de contributions financières, nos contributions financières au sein de la communauté, eh bien ces objets, en dépit du fait d'être licites pour nous, seront en fait illicites. Si, par exemple, quelque part, on est en train de faire des levées de fonds pour bâtir une mosquée alors que nous avons d'autres préférences qui ont trait à ce monde, eh bien, en dépit du fait que ces préférences peuvent être licites en des situations ordinaires, mais en pareille situation, cela deviendrait illicite pour nous. Au cours de la bataille d'Uhud, il y avait cette rumeur qui s'est répandue que le saint prophète Mohammed B.S.A. lui est tombé en martyr. Il y avait parmi les musulmans, les soldats musulmans, un compagnon qui n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Il s'était écarté au cours de la bataille lorsque les musulmans avaient remporté une victoire. Et il s'était écarté afin de consommer quelques dattes qui étaient sèches. Ces dattes sèches étaient son repas. Et lorsqu'il a entendu que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est décédé, il a jeté ses dattes. Et il a rué vers la bataille et il est tombé en martyr. Il ne s'est pas soucié de sa faim, il ne s'est pas soucié de son estomac. Pour lui, c'était un péché que de consommer ces dattes. Parce que, en cet instant, la foi requérait de sa part qu'il ne devait pas consommer ces dattes. Ces dattes étaient pour lui illicites. Ainsi, toute action, toute tâche qui est fort louable, mais qui est un obstacle dans la voie de la foi, est interdite. Et quant à l'action qui n'est pas un obstacle dans la foi, même si cette action est une action dans laquelle on tient grand plaisir, eh bien cette action n'est pas interdite. Ainsi, il nous incombe de faire naître en nous cet esprit qui va nous pousser à faire des efforts afin d'avoir le plaisir de Dieu. Allah est celui qui connaît l'état des cœurs. Et c'est un récit qui concerne cette connaissance qu'a Dieu à propos des intentions. Il est dit dans un récit qu'un jour le saint prophète était assis dans sa mosquée. Il y avait autour de lui ses compagnons. Et c'est là que s'est présenté trois visiteurs. Deux de ses visiteurs sont partis directement dans la direction du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et le troisième visiteur est retourné sur ses pas. Ces deux personnes se sont mis devant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Un des visiteurs a trouvé une place tout près du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et il s'est assis tout près du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il s'est empressé pour s'asseoir à côté du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le deuxième visiteur s'est assis là où il était, derrière quelques personnes. Le troisième visiteur croyait qu'il n'y avait pas de place et il est retourné sur ses pas. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a terminé ce qu'il avait à dire, il a déclaré: « Voulez-vous que je vous décrive la situation de ces trois visiteurs ?» Le premier a trouvé protection auprès de Dieu et Dieu lui a accordé sa protection. Cela concerne celui qui est assis tout près de moi. Le deuxième visiteur, quant à lui, était embarrassé, il ressentait de la gêne et Dieu a ressenti les mêmes sentiments à son égard. Il s'est assis derrière les gens. Et Dieu lui a pardonné ses péchés. Il a fait preuve de pudeur et Dieu lui a pardonné en faisant preuve de pudeur à son égard. Et quant au troisième visiteur, il est retourné sur ses pas et Dieu s'est détourné de lui. L'arrivée de ces trois personnes, de ces trois visiteurs qui sont venus, et le fait que deux se soient assis et que le troisième soit parti est quelque chose d'ordinaire. Apparemment, c'est un incident ordinaire. Et le troisième visiteur s'est dit que je ne pourrais pas entendre la voix du saint prophète, c'est pour cette raison qu'il est parti. Mais étant donné que l'action de ces trois personnes concernait leur intention, étant donné que ces sentiments sont sortis dans leur cœur, étant donné que c'était là l'expression de leurs sentiments, étant donné aussi que Dieu regarde l'état des cœurs, eh bien, il récompense les gens selon leurs intentions. C'est pour cette raison qu'il est important de comprendre que l'on sera récompensé, l'on sera rétribué selon les intentions que l'on a. Ainsi, Dieu a traité ces trois visiteurs selon leurs intentions. Dieu a regardé les intentions, les sentiments de ces trois visiteurs. Il a su qui était celui qui voulait aller de l'avant concernant les choses de la foi et qui est celui qui a fait preuve de négligence. Et il a récompensé les deux premiers visiteurs selon leurs intentions, mais le troisième, quant à lui, il a été privé de ses faveurs. Au contraire, il a attiré la colère de Dieu. Ainsi, le croyant doit examiner jusqu'à quel point il a fait des sacrifices pour atteindre son objectif, l'objectif qu'il a devant lui. S'il a consenti à ces sacrifices qu'on attendait de lui, ces sacrifices qui étaient nécessaires, eh bien, il va mériter le soutien de Dieu, ainsi que la récompense qui viendra de la part de Dieu. Ainsi, les sacrifices sont soit à la mesure de ses aptitudes ou à la mesure de la nécessité de l'heure. Il n'est pas nécessaire que les sacrifices soient toujours à la mesure de ses aptitudes. Des fois, on doit consentir à des sacrifices selon la situation, selon les nécessités. Si, par exemple, il y a un voyageur qui passe à côté de quelques personnes et que ce voyageur a besoin de 100 euros, et si ces personnes qui étaient assises là ont pu donner à ce voyageur ce dont il avait besoin, qu'ils ont pu lui donner selon ce qu'ils avaient, mais qu'il manquait 10 euros pour compléter le chiffre de 100, et qu'une autre personne passe par là, une personne qui est riche et qui peut à lui seul lui donner 100 euros, eh bien, étant donné que cette personne n'a besoin que de 10 euros pour compléter le chiffre de 100, en cet instant, eh bien, cette personne riche lui a donné ces 10 euros dont il avait besoin. Donc, le sacrifice est en accord aux besoins, en dépit du fait que cette personne pouvait lui donner davantage. Dans son cas, son sacrifice est à la mesure de la nécessité du moment. Et cette personne riche a consenti à ce sacrifice avec de bonnes intentions et il a été récompensé pour cela. Si dans un autre cas, il y a des levées de fonds et qu'il y a des personnes qui sont en train de contribuer des centaines et des milliers et qu'un pauvre ne contribue que quelques sous, quelques euros, selon ses aptitudes, Allah, qui connaît l'état des cœurs, va le récompenser selon ses intentions, et une telle personne va atteindre son objectif. Celui qui est riche a aussi atteint son objectif, car il a contribué, il a aidé celui qui est pauvre, selon la situation, selon la nécessité de celui qui était dans le besoin. Et celui qui est pauvre a aussi atteint son objectif parce que il a contribué selon ses aptitudes, selon ses moyens pour avoir le plaisir de Dieu. Et c'est pour cette raison que dans un hadith, il est dit que le saint prophète avait dit une fois qu'un dirham a dépassé des centaines de milliers de dirhams. Tout simplement parce qu'une personne qui ne possédait que 2 dirhams a contribué 1 dirham, mais quant à celui qui possédait des centaines de milliers de dirhams, n'a contribué que quelques milliers. Ainsi, l'on doit tout le temps se souvenir du fait que notre objectif premier, c'est d'avoir le plaisir de Dieu. Et ceux qui ont consenti à ces sacrifices dans ces 2 cas avaient pour objectif le plaisir de Dieu. La tâche première du croyant, c'est de faire de son mieux afin d'avoir le plaisir de Dieu. Et pour cela, il va devoir examiner l'état de son cœur. Il faut que ses intentions soient en accord au plaisir de Dieu. Son objectif, c'est d'avoir le plaisir de Dieu et c'est en cela qu'il aura du succès. C'est grâce à cela qu'il aura le salut. Si ses intentions sont en accord au décret de Dieu, c'est là qu'il aura le plaisir de Dieu. C'est là qu'il aura le salut. Voilà ce que signifie préférer la foi à ce monde. Nous avons de lourdes responsabilités, comme je l'ai dit. Et de toute manière, nous promettons de sacrifier notre vie, nos biens, notre temps, notre honneur. Nous faisons des serments en ce sens. Et il nous incombe tout le temps de réfléchir à ce propos. Et de réfléchir comment nous pourrons accomplir ce but, comment nous allons pouvoir respecter cet engagement et comment préférer la foi à ce monde et comment user de nos aptitudes afin d'atteindre cet objectif. Aujourd'hui, il y aura l'ijtema de l'Ansarullah du Royaume-Uni, il y aura aussi la Shura. Au cours de ces jours, on doit s'examiner, on doit voir jusqu'à quel point avons-nous pu atteindre cet objectif que de préférer la foi à ce monde. Lorsqu'on atteint l'âge de l'Ansarullah, eh bien, on doit être des exemples pour les autres. Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a besoin de rien de notre part. C'est là une faveur qu'il nous a accordée. Ce sont des dons qu'il nous a accordés. Et c'est lui qui déclare que si vous préférez la foi à ce monde, si vous essayez d'avoir mon plaisir, eh bien, je vais vous récompenser. J'ai cité les exemples de ceux qui sacrifient leurs biens, mais sachez que Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a besoin de personne d'entre nous. Dieu n'a besoin de rien. Toutes ses ressources, tous ses trésors, toutes ses terres, cet or, cet argent, c'est lui qui a créé tout cela. S'il l'avait désiré, eh bien, il aurait pu tout distribuer parmi ceux qui œuvrent pour sa cause, ceux qui œuvrent pour la foi. Mais en nous informant à propos de notre objectif, il nous encourage aussi à consentir à des sacrifices, afin que nous puissions être de ceux qui méritent son plaisir. Il n'est pas question uniquement d'argent, il est question aussi d'enfants. Il nous a accordé des enfants et il aurait pu trouver d'autres moyens pour que nous puissions donner une bonne éducation à nos enfants. Mais il a dit aux parents, aux mères, aux pères, de donner une bonne éducation à leurs enfants, et il demande aux parents de dépenser sur leurs enfants afin que ces derniers puissent servir la foi. C'est là une grande responsabilité qui repose sur les épaules des parents, c'est-à-dire qu'ils doivent impartir une bonne éducation à leurs enfants afin qu'ils puissent servir la foi. Et c'est là que l'on pourra atteindre le but de cet engagement que nous avons pris, que de préférer la foi à ce monde. Il faut impartir une bonne éducation à ces enfants afin que, dès leur tendre enfance, ils comprennent cet objectif que de préférer la foi à ce monde. Ainsi, Dieu nous a confié tout cela et il nous éprouve par ce faire et il nous accorde aussi des récompenses. Je m'adresse ici à tous les responsables, quel que soit leur poste, et je leur dis que vous avez pour responsabilité, plus que les autres, que de respecter cet engagement, que de préférer la foi à ce monde. Vous devez comprendre cette responsabilité. Et on leur a confié certaines responsabilités pour qu'ils puissent atteindre un objectif. Et pour cela, il est important pour eux de rehausser la norme de leur sacrifice. Il incombe aussi à tous les responsables, quel que soit leur niveau, qu'ils travaillent au niveau local ou au niveau central, que de comprendre leur importance et que de faire des efforts pour respecter leur engagement. Ils doivent agir en ce sens. Que l'on se souvienne aussi que Dieu regarde l'état des cœurs, il regarde les intentions. Allah bénit celui qui travaille sincèrement. Et Dieu lui accorde aussi sa proximité. Et un responsable de la communauté doit faire de son mieux pour atteindre cet objectif. Qu'Allah fasse que tous les responsables, quel que soit leur niveau, que vous et moi, que tous les Ahmadis, nous ayons la possibilité de préférer la foi à ce monde et que nous puissions comprendre cet engagement que nous avons pris, que nous puissions agir en ce sens. Aujourd'hui aussi, je dois vous présenter une nouvelle tragique qu'on a reçue du Pakistan. Il y a un Ahmadi qui est tombé en martyr. Il s'agit de Mokaram Latif Alam Bhatt Saheb, fils de Mokaram Khurshid Alam Bhatt de Kangra. Le 15 octobre dernier, vers 19h, il y a deux personnes qui étaient à moto qui se sont approchées de lui. Ils ont tiré sur lui et il est tombé en martyr. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Latif Alam Bhatt avait un magasin tout près de sa maison et il retournait chez lui. Il était tout près de sa maison dans sa ruelle quand deux personnes qui étaient à moto lui ont appelé de son nom. Et lorsqu'il s'est retourné, un des deux assaillants lui a tiré dessus. Il a reçu 4 à 5 balles à la poitrine. Son fils est venu et on a fait venir une ambulance. Il était toujours conscient, mais il est décédé en cours de route lorsqu'on lui transportait à l'hôpital. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les membres de la famille du martyr et de la région de Gujranwala. C'était son père, Mokaram Khurshid Alam Bhatt, qui avait embrassé l'Ahmadiyya en 1934. Le martyr, quant à lui, est né en avril 1952 à Gujranwala. Après ses études, il a travaillé au sein de l'armée de l'air et il travaillait comme technicien dans l'armée de l'air. Il a pris sa retraite en 1991, son fils aîné aussi travaille dans l'armée de l'air. Après avoir pris la retraite, il a lancé une librairie qui vendait des livres de loi. Il vendait ses livres à des avocats et il était très connu. Et il y avait des non-Ahmadis aussi qui appréciaient ses services. Le martyr occupait le poste de Nazim Ishat Ansarullah. Lorsqu'il est décédé. Et il a aussi été secrétaire Ziafat Khodamul Ahmadiyya et Nazim Sehat Jismani. La maison du martyr a été utilisée pour une longue période comme centre de prière. Et on utilisait aussi sa maison pour d'autres rencontres de la communauté. Le martyr était toujours prêt à servir à la communauté. Et il accomplissait toute tâche qu'on lui confiait de gaieté de cœur. Jamais il ne refusait de faire quelque chose. Il était imbu d'un grand sens d'hospitalité. Il avait une grande affection pour le califat. Il était imbu d'un grand sens de l'obéissance. Il accomplissait les 5 prières quotidiennes régulièrement. Et 2 heures avant la prière de Jumma, il partait déjà à la mosquée. Il était très brave. En 2007-2008, il y avait certains inconnus qui ont tenté de s'attaquer à lui. Le pistolet d'un de ses assaillants s'est enrayé et il avait pu attraper un de ses assaillants. Il y a eu une bagarre et ses assaillants ont pu prendre la fuite. Le martyr avait une grande personnalité. Il s'est soucié de l'éducation de ses enfants. Il avait 62 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il avait rempli le formulaire d'Al-Wasiya. Son Wasiya n'a pas encore été accepté, mais en tout cas, le département concerné doit faire accepter son Wasiya. En tout cas, moi, j'accepte son Wasiya et la Majlis Karpardas doit le traiter quand même aussi. L'amir de la province a déclaré que le martyr avait un très grand sens de l'obéissance à l'égard des responsables de la communauté et il participait dans tous les programmes de la communauté. Il ne s'est jamais absenté pour quelques programmes de la communauté. Il a laissé derrière lui son épouse et une fille qui s'appelle Aram Wasim et il a laissé aussi 4 fils derrière lui, Khuram Bhatt, Zishan Bhatt, qui travaillait avec le défunt, et Omar Bhatt, qui est ingénieur en électricité ou qui est en train d'étudier l'électricité, et Ali Bhatt, qui est quant à lui un salarié. Il y a Mahmoud Mujib Asghar Saheb, qui était l'amir de la province. Il a dit que le défunt, après avoir pris sa retraite, s'est établi là-bas en permanence, dans cette région. Il s'est établi là-bas afin de pouvoir établir une communauté là-bas. Parce que la plupart de ceux qui travaillaient dans l'armée de l'air étaient transférés ailleurs. C'est pour cette raison qu'il avait bâti là-bas un centre. Parce qu'il n'y avait pas de Jamaat là-bas. Il voulait établir une communauté là-bas. Qu'Allah fasse que son intention puisse porter des fruits. Et que des centaines de milliers d'Ahmadis acceptent l'Ahmadiyya dans la région suite à ce martyr, que l'on puisse établir la Jamaat là-bas. Qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'il accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. Priez aussi pour tous les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah leur accorde sa protection à tous ces Ahmadis. L'hostilité et l'animosité de l'ennemi ne cessent de prendre de l'ampleur. Qu'Allah crée les moyens pour qu'il y ait la paix pour nous au Pakistan au plus vite.